Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec Marion Calais, Julien Cellier. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos avec donc à mes côtés Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Julien.
Et à la une, la menace nucléaire. Vladimir Poutine la brandit de nouveau et il annonce une mobilisation partielle. 300 000 soldats supplémentaires.
Alors la Russie bluffe-t-elle? Vous entendrez la réaction du président américain il y a quelques minutes à la tribune de l'ONU, Joe Biden. Nous vous raconterons aussi l'exode des appelés potentiels. Les avions pour quitter Moscou ont été pris d'assaut.
Et puis notre invité sera un opposant de Poutine, directeur d'ONG, réfugié en France. Il assure avoir été victime d'une tentative d'assassinat chez lui il y a 10 jours. Les autres titres de l'actu, Marion.
Réintégrer mais marquer la reconstruction compliquée de la joueuse du PSG, Keira Amraoui, après son agression l'an dernier. Et puis si vous avez des enfants, écoutez bien, crédit d'impôt immédiat pour la garde d'enfants à domicile et extension des aides à la garde d'enfants pour les familles monoparentales, des coups de pouce annoncés par le gouvernement.
À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière au musée d'Orsay ce soir pour l'expo événement Munch. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Vous le disiez dans les titres, alors que Vladimir Poutine agite encore la menace nucléaire, vous allez découvrir l'un des plus grands secrets de la République. Comment débloquer l'arme atomique française? Au menu également, l'incroyable résistance des fourmis, des trottinettes réservées aux plus de 18 ans et le bistrot contre l'exode rural.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Un temps très ensoleillé sur tout le pays à l'exception de la Méditerranée. Des températures en revanche fraîches le matin, mais un petit peu plus élevées que la veille dans l'après-midi.
À tout à l'heure.
RTL Soir. Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
Un Vladimir Poutine plus que jamais véhément, mais peut-être aussi plus que jamais seul, après son allocution ce matin.
Même la Chine, l'un des rares grands à ne pas avoir tourné le dos à la Russie, a pris ses distances aujourd'hui. Pékin appelle au cessez-le-feu par le dialogue, là où le maître du Kremlin a joué l'escalade, se disant prêt à utiliser tous les moyens de destruction à sa disposition.
L'arme nucléaire n'est pas clairement nommée, mais la menace est à peine voilée. Menace inacceptable pour le président américain Joe Biden qui vient de s'exprimer à la tribune des Nations Unies.
Just today, President Putin has made...
Encore aujourd'hui, Vladimir Poutine a proféré des menaces nucléaires contre l'Europe. Cette guerre vise à nier le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, purement et simplement. Et le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple, où que vous soyez, où que vous viviez, quelles que soient vos croyances, cela devrait vous glacer le sang.
Joe Biden qui prend donc au sérieux la menace de Moscou. Emmanuel Macron, lui, a appelé il y a quelques minutes à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. De son côté, l'OTAN dénonce une rhétorique nucléaire dangereuse.
De son côté, le président ukrainien lui dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires. Je ne crois pas que le monde laissera faire, assure Volodymyr Zelensky.
L'escalade dans les mots de la Russie, l'escalade dans les faits aussi. Car Vladimir Poutine a aussi décrété ce matin la mobilisation d'une partie de ses réservistes pour aller combattre en Ukraine. Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Est-ce qu'on sait combien de Russes seront concernés, sont concernés d'ailleurs?
Alors le ministre de la Défense russe parle de 300 000 hommes, mais c'est une projection car en fait, aucun chiffre n'apparaît publiquement dans le décret signé par Vladimir Poutine. C'est une information classée secret défense. 300 000, cela paraît peu comparé aux 25 millions de réservistes en Russie. Il semble donc que le Kremlin préfère y aller doucement. Il s'agira dans un premier temps de hommes ayant déjà servi dans l'armée et qui ont une expérience pertinente. Voilà ce que dit le décret. Les ordres de mobilisation sont déjà partis ce jour et certains l'ont déjà reçu. À voir maintenant si et comment l'armée russe peut former, loger, habiller 300 000 recrues supplémentaires. C'est aussi une décision politique risquée pour Vladimir Poutine qui pourrait se mettre à dos sa population.
Oui, parce que cette annonce de mobilisation partielle, elle suscite de l'inquiétude en Russie, avec à la clé d'ailleurs déjà quelques tentatives de manifestation.
Oui, il y a eu des essais de regroupement, on va dire, dès ce matin, comme dans la ville de Tomsk, en Sibérie. Des regroupements dispersés en quelques minutes par les forces de police. Pareil ce soir à Irkoutsk, Novosibirsk, toujours en Sibérie. Les premiers manifestants ont été tout de suite arrêtés par les forces de l'ordre. C'est pourquoi ces appels à manifester risquent de ne pas être très suivis, car les Russes ont peur. Peur d'être arrêtés, peur d'être envoyés au front directement et peur aussi des représailles.
Voilà, des forces de police plus nombreuses que les manifestants sur les quelques images qu'on a pu voir jusqu'à présent, notamment donc en Sibérie. Merci, Émilie Beaujard.
Alors, plus que les manifestations en Russie, désormais, il y a la tentation de l'exil sur Internet. Les mots « quitter la Russie » étaient 100 fois plus recherchés ce matin qu'en temps normal.
Et de nombreuses destinations affichent déjà complet au départ de Moscou. C'est le cas notamment de la Turquie, devenue l'une des principales voies de passage vers la Russie depuis la mise en place des sanctions occidentales. Timur Özturk, vous êtes à Istanbul pour RTL et vous l'avez constaté, cette ruée sur les réservations.
Oui, pas un siège de libre avant dimanche chez Turkish Airlines, Aeroflot ou via des transporteurs low cost comme Pegasus. Après le 24 février, Ankara a maintenu ses liaisons aériennes avec la Russie. Contrairement aux pays européens, les réservistes russes qui souhaitent échapper à l'enrôlement peuvent donc entrer sans visa en Turquie, ce qui explique cette ruée sur les vols à destination d'Istanbul. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des dizaines de milliers de Russes ont déjà transité par la Turquie pour fuir. Certains sont restés et se sont installés sur les rives du Bosphore ou dans la ville balnéaire d'Antalya. Les Russes sont d'ailleurs devenus les premiers acquéreurs étrangers de biens immobiliers en Turquie, un moyen pour eux d'obtenir la nationalité turque.
Timur Özturk, correspondant de RTL en Turquie. Si je suis appelé, je ferai tout pour aller en prison plutôt que tuer des gens. Voilà aussi comment d'autres jeunes Russes réagissent aujourd'hui. Témoignage à retrouver tout à l'heure dans le journal de 19h.
Et sur fond de flambée des cours liés justement à la guerre, voilà qu'on parle à nouveau de taxer les super-profits.
Idée défendue hier par le patron de l'ONU. En France, la NUP a lancé aujourd'hui une tentative de référendum d'initiative partagée et dans le même temps, lors d'une audition parlementaire, le patron de Total Energy s'est expliqué et a mis en garde. Si une telle taxe devait être mise en place, elle aurait forcément des répercussions sur la ristourne volontaire accordée aujourd'hui par le groupe dans ses stations-service.
La continuation en 2023 va quand même dépendre du niveau des taxations que vous allez tous décider, si je puis me permettre. Moi, j'attends de voir ce qui va sortir aussi du niveau européen et combien va représenter l'effort européen. Il représentera sans doute... Enfin, il sera au-delà du milliard d'euros. Moi, j'attends de voir exactement quelle va être la base et comment vont être taxés ces profits avant de décider si la partie volontaire continue ou non.
Voilà, la partie volontaire continuera-t-elle ou non? Aujourd'hui, 20 centimes de ristourne dans les stations totales, en plus des 30 centimes accordés par le gouvernement pour le plein en station. Patrick Pouyanné, auditionné donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec Marie-Bénédicte Allaire.
Et votre journal va continuer dans un instant dans RTL Soir avec la vie bousculée de Keira Amraoui, la joueuse du PSG agressée violemment il y a un an sur fond de rivalité avec une coéquipière, tout juste réintégrée par son club, mais encore profondément marquée. À tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Bonne soirée, la suite de votre journal dans RTL Soir à 18h09. Va-t-elle rester en prison? Le sort d'Aminata Diallo tranché aujourd'hui par la justice.
Soupçonnée d'avoir commandité la violente agression de la footballeuse et de son ancienne coéquipière Keira Amraoui l'an dernier, l'international du foot français a été placé en détention provisoire. Cette détention sera-t-elle confirmée? Réponse donc dans les prochaines heures.
Keira Amraoui, elle, a été réintégrée hier soir par le PSG. Première étape, Vincent Serrano, d'une reconstruction qui s'annonce compliquée.
Oui, sur le plan sportif, elle le dit elle-même, il faut d'abord retrouver le chemin des terrains et les obstacles sont nombreux. Elle n'a plus joué depuis la mi-avril, une partie du vestiaire lui a tourné le dos, ce qui l'a amené à s'entraîner à part pendant plusieurs mois. La forme physique, elle l'a, la voilà de retour dans le groupe, mais son entraîneur était catégorique la semaine dernière, elle n'entre pas dans mon projet de jeu. Son contrat court pourtant jusqu'à juin 2023, avec en ligne de mire le mondial à l'été, l'avenir sportif se dessinerait donc en tricolore, mais là aussi cela risque d'être compliqué. Elle a manqué l'Euro l'année dernière et à 32 ans, il faudra de nouveau faire ses preuves. Mais le plus grand pan de sa reconstruction est personnel, mental. Keira Amraoui se dit toujours sous le choc, meurtrie, dévastée par toute cette affaire. Son avocate me l'a confirmé tout à l'heure au téléphone. Keira a encore peur aujourd'hui pour sa sécurité. À se dire que des personnes mêlées même de loin à l'affaire peuvent encore la croiser dans la rue. Mais elle reste une combattante. La joueuse est sortie de son silence il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux. J'ai été insultée, harcelée, menacée de mort. Quelques lignes plus bas, s'il y a bien une chose qui n'a pourtant pas changé depuis ce drame, c'est mon ambition pour moi et mon pays.
Les informations de Vincent Serrano pour RTL. Merci Vincent.
Aux États-Unis, on l'a appris il y a quelques minutes, l'ancien président Donald Trump poursuivi au civil pour fraude fiscale, annonce de la procureure générale de New York.
L'un a été confirmé, l'autre vient d'être annoncé. En ce mois de rentrée, le gouvernement au chevet des familles avec deux coups de pouce.
Écoutez bien, si vous avez des enfants, bonsoir Anaïs Bouissou.
Bonsoir.
Deux mesures qu'on va détailler. D'abord, cette aide nouvelle pour les familles monoparentales.
Oui, l'aide financière versée aujourd'hui jusqu'aux 6 ans de votre enfant pour le faire garder va être rallongée, étendue jusqu'à 11 ans, jusqu'à l'entrée au collège de l'enfant pour les mamans et les papas seuls. L'objectif est double, soulager le portefeuille des familles monoparentales, dont 30% quand même sont considérées comme étant pauvres, et permettre aux parents de travailler pendant que leur enfant est gardé, même après l'école en primaire.
Et puis il y a aussi une mesure qui elle, vient d'entrer en vigueur.
Oui, il s'agit cette fois du crédit d'impôt pour les familles qui font garder à domicile leurs enfants de plus de 6 ans. 90 000 familles concernées. Jusqu'à présent, les parents versaient un salaire à leur aide à domicile et pouvaient ensuite se faire rembourser la moitié. Mais il fallait avancer l'argent. Désormais, depuis la rentrée, le crédit d'impôt est immédiat. Plus d'argent à avancer et c'est autant de dépenses évitées.
Voilà, entre pouvoir d'achat donc, et accompagnement aussi des familles hein, pour leur mode de garde, explication signée Anaïs Bouissou. Merci. Lui va justement pouvoir s'occuper de ses enfants.
Il n'a pas forcément besoin de coups de pouce. Mais...
Exactement. Ni de nounou forcément très nombreuses à domicile. Dernier match en vue pour Roger Federer qui a annoncé sa retraite la semaine dernière. Il rêve de terminer en double vendredi soir aux côtés de Rafael Nadal dans le cadre de la Lever Cup à Londres.
Et Roger Federer qui s'est présenté tout à l'heure donc pour la dernière fois face à la presse. Première prise de parole depuis l'annonce de sa retraite. Federer serein et sans regret.
J'ai toujours adoré le tennis, alors forcément la décision elle n'était pas simple, mais je sais que c'est la bonne et la seule bonne décision. J'ai senti au début d'été que ça allait beaucoup moins bien et les progrès ils n'étaient plus vraiment là et je ne voulais pas non plus essayer pour ne pas y arriver. On a tout fait, on est arrivé à un croisement, il fallait juste se dire ça suffit maintenant, c'était bien, c'est une bonne carrière, tu as le droit d'y aller maintenant. Je suis content avec cette décision.
Roger Federer content donc avec cette décision avec Isabelle Langer pour RTL.
Merci Marion. Le temps pour demain, chère Claire, à quoi faut-il se préparer ?
À du soleil
et voilà.
Un soleil vraiment généreux.
Oui,
et
quand vous voulez.
Oui, quand je veux, mais ça ne va pas durer. Donc profitez bien de ce jeudi car vendredi ça va se dégrader. Donc en tout cas pour cette matinée, donc je vous le disais, très ensoleillé à part quelques endroits où en effet nous aurons quelques brumes et brouillards, mais ça c'est dû à l'anticipation cyclone qui plaque l'humidité résiduelle de la nuit encore au sol. Mais bon, après cette dispersion, là encore, ce sera de très belles éclaircies. Là où c'est un petit peu plus mitigé, eh bien c'est en Méditerranée. Là aussi, hein, dès le réveil, eh bien ce sera un ciel assez bouché avec en prime quelques pluies qui vont surtout se manifester vers l'ouest de la Corse, mais aussi vers le Languedoc-Roussillon. Mais là encore, dans l'après-midi, les éclaircies feront leur apparition, même si en effet des passages nuageux seront toujours bien présents et quelques averses essentiellement vers le sud des Alpes et vers la montagne corse. Bon, passons maintenant aux choses qui fâchent, les températures. Un peu frais en matinée, 3 à 7 degrés quand même sur le quart nord-est, sur la région centrale et même déjà encore les premières gelées localement en Sologne, en Île-de-France, en Picardie, même en Champagne et même en Lorraine. Ailleurs, il faudra compter 6 à 10 degrés et dans l'après-midi, par contre, eh bien, on a une amplitude thermique, on prend quelques degrés de plus par rapport à la veille. Il faudra compter jusqu'à 24 degrés pour une large moitié nord et jusqu'à 27 voire 28 degrés encore pour la moitié sud.
Merci Claire. Petite pause dans RTL Soir et ensuite au moment où Poutine brandit la menace nucléaire, et bien notre invité est l'un de ses opposants. Il s'appelle Vladimir Osetchkine, il dirige une ONG, il est réfugié politique en France et il assure, écoutez bien, avoir été victime d'une tentative d'assassinat il y a 10 jours. A tout de suite.
Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h. Julien Cellier.
L'invité d'RTL Soir.
RTL Soir toujours avec vous, bonne fin de journée. Et au moment où Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire, au moment où il mobilise des dizaines de milliers de soldats supplémentaires, notre invité est russe ce soir et c'est un opposant au pouvoir. Bonsoir Vladimir Osetchkine.
Bonsoir à vous.
Vous dirigez l'ONG Goulagou qui dénonce la torture, notamment dans les prisons russes. Vous êtes réfugié politique ici en France. Et vous assurez avoir été victime d'une tentative d'assassinat chez vous, à Biarritz, il y a 10 jours. Alors, vous allez nous raconter cette histoire. Juste avant, je voudrais votre avis sur le discours ce matin de Vladimir Poutine, parce qu'il rebrandit l'option nucléaire. Forcément, c'est toujours effrayant. Est-ce que vous, vous jugez cette menace crédible ?
Oui, je pense que tout ce que le dictateur Poutine fait maintenant, dans les derniers 6 mois, c'est très grande violence pour tout le monde, parce qu'il veut garder son pouvoir. Et il a bien compris que l'Ukraine, c'est un pays de démocratie qui contactait avec l'Europe Union, avec les États-Unis. Mais Poutine, il veut retourner dans le temps, comme dans l'URSS, avec KGB et un goulag. Et pour lui, il n'y a pas de frontières. Et je pense que lui est la plus grande menace maintenant pour tout le monde.
Vous avez, j'imagine, des contacts avec des amis, avec des activistes en Russie. Poutine a annoncé ce matin une mobilisation partielle. 300 000 hommes. Est-ce que vous connaissez des Russes qui vont fuir, qui vont essayer d'échapper à la mobilisation ? On voit que les billets d'avion sont pris d'assaut.
Aujourd'hui, c'est catastrophe avec les messages de notre hotline de goulagou.net. C'est beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 100 lettres de personnes qui veulent quitter la Russie. Ils ne veulent pas participer dans la guerre. Et ils ont très peur que Poutine, avec les nouvelles lois, et police de la Russie, FSB, arrête cette personne et transfère cette personne dans la prison et fait les tortures et les viols contre cette personne. Oui, c'est beaucoup de personnes qui veulent quitter la Russie aujourd'hui après son décision de mobilisation.
Vous nous dites qu'il y a une centaine de personnes qui vous ont écrit aujourd'hui parce qu'ils veulent quitter la Russie. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ?
C'est catastrophe, c'est incroyable, c'est bizarre qu'est-ce que lui fait contre les Russes aussi. Il fait beaucoup de choses contre les Ukrainiens, mais en plus, maintenant, c'est plus de 20 000 Russes qui étaient tués dans cette guerre. Et c'est beaucoup de Russes qui participaient dans cette guerre. Il veut quitter la guerre. Mais il a bien compris que s'il retourne et fait quelque chose pour retourner en Russie, le FSB qui arrête cette personne, qui fait les tortures. Maintenant, moi, notre association New Dissidence Foundation et mes collègues, nous réfléchissons ensemble, qu'est-ce que c'est possible de faire, parce qu'il faut trouver une route pour cette personne qui veut quitter la guerre, mais qui est peur pour retourner en Russie.
Revenons à votre histoire, Vladimir Osetchkine. Vous êtes réfugié politique, vous vivez à Biarritz, et le 12 septembre dernier, vous avez eu très très peur pour votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Oui, mais première chose, je veux dire merci beaucoup en France et à la police nationale qui protège moi.
Oui, parce que vous êtes sous très forte protection policière en ce moment.
Oui, mais de la situation de risque de mort de septembre, à 9 septembre, à vendredi, investigateur et journaliste Christo Grozev envoyait à moi les messages et les informations avec les photos d'une leader criminelle. Et Christo expliquait à moi que cette leader criminelle qui travaille en Russie avec force spéciale, FSB, il arrive en France et il veut tuer moi. Bien sûr, tout de suite, j'ai envoyé toute cette information à la police. Il a invité moi au commissariat de Bayon.
Donc vous saviez, vous saviez que vous étiez menacé?
Oui. Je quittais Biarritz pour le week-end. Et à lundi, à 12 septembre, nous sommes retournés à Biarritz avec ma famille, parce que c'est le jour de l'école, et voilà. Mais ma femme, avec les enfants, elle est retournée à la maison, à côté de 9h dans le soir. Dans 10 minutes, nous préparons quelque chose très vite pour donner le manger pour les enfants. Et quand je rentre dans notre salle de manger, et je vois les points dans notre terrasse, point rouge, qui traversait dans le mur, et traversé dans la direction de moi.
Comme le point rouge qui sert à viser sur un fusil.
Oui, c'est petit truc comme laser. Tout de suite, je prends mes enfants par terre et tout de suite, j'appelle à la police. Et après 10 ou 15 minutes, la police arrive dans l'autre côté de notre maison. Une des officiers allait pour les fenêtres pour ouvrir et pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et moi, et cette policier, et notre voisin, écoutez deux fois comme deux chutes. C'est très dangereux et maintenant, je quittais Biarritz et je suis maintenant ici.
Pour autant, la justice alors a ouvert une enquête pour menace, mais pour l'instant, elle explique qu'il n'y a pas d'éléments pour prouver une tentative d'assassinat. En clair, les traces de balles n'ont pas été retrouvées.
J'ai respecté tout ce que la France, les procureurs, les investigateurs, les policiers font pour protéger moi. Et je pense qu'il faut donner le temps pour les investigateurs. Je crois qu'ils trouvent les solutions et je crois qu'ils trouvent les personnes qui font cette chose à 12 septembre contre moi.
Merci Vladimir Osetchkine de nous avoir raconté votre histoire ce soir sur RTL, vous l'opposant, le directeur de l'ONG Goulagou, et d'avoir aussi réagi aux menaces de Vladimir Poutine. Merci d'avoir été notre invité sur RTL.
Merci à vous et bonne soirée.
Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
Et dans quelques secondes, RTL Soir va se poursuivre. On va continuer de vous informer avec nos dessous de l'actu. Tiens, on va partir à l'ONU, AG des Nations Unies en ce moment à New York. Tous les grands dirigeants de la planète réunis. Comment ont-ils vécu en temps réel les menaces de Vladimir Poutine? Et puis, laissez-vous tenter dernière, plus réjouissant. On vous emmène dans les coulisses de l'Expo Munch, l'événement de la rentrée au Musée d'Orsay. À tout de suite.
Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée avec RTL Soir, 18h28 minutes.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Allez, bonne fin de journée, on continue donc de vous informer et voici justement les trois actus à retenir dans l'actualité de cette soirée. C'est avec vous Marion Calais.
Irresponsable, dangereuse, désespérée, les mots des dirigeants occidentaux après le discours de Vladimir Poutine. Ce matin, le président russe qui décrète une mobilisation partielle des réservistes justifie l'organisation de référendums d'annexion en territoires ukrainiens et menace d'utiliser tous les moyens à sa disposition, menace nucléaire à peine voilée. Aux États-Unis, Donald Trump poursuivi pour fraude fiscale, annonce de la procureure générale de New York qualifiée de poursuite politique à l'instant par la porte-parole de l'ancien président. Et puis sécheresse et canicule apparemment sans conséquences pour les vignes et le vignoble de Bourgogne. L'interprofession évoque aujourd'hui et promet déjà un millésime exceptionnel pour 2022, millésime généreux.
Et le temps demain, clair, frais, mais ensoleillé.
Très bien résumé, à l'exception de la Méditerranée, qui aura un petit peu plus de nuages ponctués d'averses, mais partout ailleurs, en effet, des éclaircies vont dominer, avec en effet le mercure aussi qui baisse un petit peu.
Merci Claire.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir, de l'AG, l'Assemblée Générale des Nations Unies, les dirigeants du monde réunis en ce moment même à New York, et c'est là-bas, à New York, qu'ils ont suivi donc en temps réel le discours de Poutine ces dernières heures. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL. Ambiance, j'imagine, particulière en coulisses. D'autant que les menaces, elles sont tombées en pleine nuit, heure américaine. Tiens, est-ce qu'on sait comment Emmanuel Macron a appris la nouvelle ?
Non, son entourage est resté très discret là-dessus. Ils n'ont pas voulu me répondre. Il était 2h du matin ce matin à New York quand Vladimir Poutine s'est exprimé. On ne sait pas, par exemple, si Emmanuel Macron a été réveillé dans la nuit ou pas par ses conseillers. Ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'ici, la guerre en Ukraine, bien sûr, elle est dans toutes les têtes. D'autant plus depuis qu'on a appris que Vladimir Poutine envisageait d'organiser ses référendums dans le Donbass. Hier soir, Emmanuel Macron a dîné d'ailleurs avec plusieurs chefs d'État quelques heures seulement avant ses annonces. Un dîner sur le thème de la fracture nord-sud provoquée justement par cette guerre. Autour de la table, il y avait plusieurs dirigeants africains d'Amérique latine ou encore le président du Conseil européen à la résidence du consulat de France. Mais le dîner était terminé lorsque la nouvelle est tombée dans la nuit et il a fallu attendre ce matin, heure de New York, pour qu'Emmanuel Macron réagisse. Écoutez, c'était il y a quelques minutes.
Aujourd'hui, la Russie est de plus en plus isolée et est en train de s'engager de plus en plus dans une guerre qu'elle est au fond seule à vouloir et qui est illégale et illégitime. Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef et tous, c'est que nous mettions tous maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens.
Est-ce que Emmanuel Macron et les autres dirigeants, Thomas, ont improvisé des rencontres pour réagir, contre-attaquer ces dernières heures ?
n'ont officiellement aucun changement dans l'agenda d'Emmanuel Macron, mais bien sûr ces déclarations de Vladimir Poutine, elles sont dans toutes les discussions. Ce matin par exemple, le président a vu le patron de l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Ensemble, ils ont surtout évoqué la situation de la centrale de Zaporijjia, mais on imagine bien que le sujet n'était pas très loin. Et puis hasard du calendrier, Emmanuel Macron doit tout à l'heure s'entretenir en tête à tête avec son homologue américain Joe Biden, le chef de l'État, qui a d'ores et déjà dit qu'ils évoqueront ensemble le sujet de la guerre en Ukraine.
Il est impossible de gagner une guerre nucléaire, il ne faut pas la mener. Ce sont les mots de Joe Biden justement à la tribune de l'ONU aujourd'hui. Merci Thomas, les dessous de l'actu avec vous depuis New York et donc l'AG des Nations Unies ce soir.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h32.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, moins angoissant, on vous propose maintenant dans Laissez-vous tenter, dernière, une petite balade au musée d'Orsay à Paris. Bonsoir Monique Younes.
Bonsoir.
On va aller voir avec vous une des expos phares, événements de cette rentrée, celle consacrée au peintre norvégien Edvard Munch. Mon norvégien est parfait
mais
ou pas, Monique?
Il est parfait, là.
Parfait, très bien. C'est mon côté blond scandinave, ça.
Voilà.
On connaît tous au moins une œuvre de Munch, c'est le Cri.
Bah oui, une des icônes incontournables de l'art. C'est l'allégorie universelle du désarroi humain. Elle existe en 5 versions, 3 tableaux, un dessin et une œuvre imprimée, une lithographie comme on dit. Et c'est cette dernière qui est exposée au musée d'Orsay aux côtés d'une centaine d'œuvres tout aussi criantes que le Cri. Ben oui, oui, à commencer par ce tableau que Munch a intitulé Le désespoir et qu'il considérait comme son premier cri. On y voit un homme de profil qui regarde un ciel rougeoyant, aux lignes sinueuses. Et Munch raconte qu'il a été pris d'angoisse la première fois qu'il a vu le ciel devenir rouge à l'heure du coucher de soleil. C'est ça qu'il a peint, son angoisse. Mais ce ne sont pas que les couchers de soleil qui ont angoissé Munch. Claire Bernardi, la commissaire de l'exposition, m'a rappelé que la vie n'a pas épargné le peintre.
Il a connu à 5 ans le décès de sa mère, celui de sa sœur quelques années plus tard. Et lui-même était très, très atteint et très souffrant dès la naissance. Son manifeste et son parti pris dès le début de dire je vais représenter et je vais peindre pour que les gens trouvent du sens à leur vie. Je vais essayer de peindre des gens qui sont ceux que je côtoie, des gens qui aiment, qui souffrent et qui meurent.
Et c'est donc cette vie qui inspire aussi le titre de cette exposition, Monique, Munch, un poème de vie, d'amour et de mort.
Mais exactement, et j'aurais ajouté une vie d'espoir, parce qu'il revient sans cesse, et ça lui permet de peindre. Parce que Munch est mort en 1944, à l'âge de 80 ans, après avoir peint pendant 60 ans. Et Claire Bernardi a choisi d'exposer 10 de ses autoportraits au musée d'Orsay, du premier à 30 ans, au dernier à 80 ans, quelques mois avant sa mort.
Il ne se représentait jamais en tant que peintre, contrairement à d'autres artistes, jamais en peintre peignant son modèle. Il se représente dans son intérieur, des autoportraits très souvent symboliques d'un moment de tourment, de difficulté, ou au contraire à un moment d'affirmation de soi.
Alors Munch, quand on dit Munch, c'est une star, c'est un peintre majeur, mais il n'a pas toujours fait l'unanimité.
Ben alors beaucoup encore aujourd'hui ne comprennent pas sa manière de peindre. Munch est en effet assez révolutionnaire au début du XXe siècle. Il simplifie les traits du visage, il bannit la perspective, de telle sorte que ses personnages sont fondus, dissous dans leur décor. Et pour arriver à ça, il utilise les mêmes couleurs, les mêmes techniques. Ses personnages sont peints comme des arbres, des ciels, des vagues. Il abolit la supériorité de l'humain sur la nature. Tout est organique et même végétal. Et en ce sens, c'est le premier peintre écologiste, je dirais. Mais on peut dire beaucoup de choses sur Edvard Munch. Mieux vaut encore aller le découvrir. Vous avez jusqu'au 22 janvier pour vous rendre où ?
Au musée d'Orsay. Courez-y, voilà. Les Parisiens, les Franciliens et tous ceux qui seront de passage dans la capitale dans les prochaines semaines. Munch by Monique Younes ce soir dans Laissez-vous tenter dernière. Merci, chère Monique.
Ciao.
RTL Soir, la suite, c'est dans quelques secondes. On va défaire le monde. 20 minutes d'infos. Autrement, ça c'est un peu le slogan avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous, on s'entraîne à faire le cri de Munch.
Ah oui, là, vous le faites très
c'est
bien.
Bon, ceux
qui regardent sur RTL peuvent faire son ravi, vraiment c'est très gracieux. Poutine menace, on en a beaucoup parlé, il brandit de nouveau l'arme nucléaire, mais au fait, le bouton rouge, la valise atomique, ça ressemble à quoi? Comment elle fonctionne? Eh bien un colonel qu'il a eu entre les mains ici en France nous raconte tout juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.